Et on applaudit. Fantastique. Alors vraiment, là, on a le goût de vous connaître tous. Moi, je vous connais un peu. Lui, il vous connaît encore mieux. Mais tout le monde va apprendre à vous connaître au cours des prochaines 45 minutes. On ne pourra pas aller plus loin. Mais on a des jeunes personnalités autour de la table. Et je vais expliquer maintenant à ceux qui sont à nous ce dont il est question. Vous savez de quoi il est question, bien sûr, donc pas de problème. Bienvenue à Tam Tam Canada, édition spéciale en direct du Palais des Congrès de Montréal. Aujourd'hui, vendredi, eh bien, on a le plaisir d'être à la quatrième édition du Salon Canado-Maghrébin du développement. Et ce n'est pas la première fois qu'on est ici. C'est pour nous une occasion de se joindre à la mission de ce salon qui est de faire valoir le talent, la jeunesse et puis le développement dans la communauté maghrébine, canado-maghrébine, ici à Montréal notamment. On va donner des chiffres. J'ai retiré ça de vos documents, Adèle, qui est l'organisateur du Salon canado-maghrébin. Il y avait seulement 38 000 personnes maghrébines au Québec en 1996.
Oui.
Et là, on est rendu à
300 000 probablement en 2018.
Voilà. Et pour le Québec, c'est une immigration de choix. Ce sont des gens, en général, qui s'expriment bien en français.
Ouais.
Donc, c'est toutes des occasions ici pour les gens de collaborer ensemble, de travailler au développement de la société dans laquelle on se trouve présentement. Alors, je présente tout le monde. Vous levez la main sans faire tomber les microphones tout de même. Dès que je vous présente, d'accord? On va commencer par Adèle Achoury, organisateur du Salon canado-maghrébin. Fantastique. On l'applaudit. Okay. Allez, allez.
Je m'applaudis moi-même. Allez.
Voilà. Et vous allez continuer à vous applaudir vous-même. Alors, on a Selma Tanouche Benani du Conseil des Montréalaises.
Je m'applaudis aussi.
Oui, absolument. Et Reda Agouram. Oh là là, c'est un nom bien connu. On ne dira pas pourquoi tout de suite. On va le dire, d'accord? Ex-footballeur de l'équipe de l'Impact de Montréal. Et vous êtes à 25 ans, vous avez fait votre vie et l'image de vous-même. Et vous aidez beaucoup la jeunesse autour de vous.
Exactement.
On va découvrir pourquoi plus tard. Et puis, à vos côtés, vous êtes... Vous avez Amira Boutouche, vice-présidente de Fondation Club Avenir, très important club, bien connu ici parmi les Maghrébins. Bonjour.
Bonjour.
Et on l'applaudit, là. Bon. Et Oudène Maktour, animateur à radio, de radio à Média Maghreb, mais il a du métier. Vous pourriez pratiquement faire cette émission, hein, tout seul, d'ailleurs, tellement vous parlez.
Je ne vais pas prendre votre place, quand même.
Ben, écoutez... Peut-être que dans l'avenir, vous le ferez. Moi, un jour, il faudra que je prenne ma retraite, hein, il faut que je parte. Alors, vous avez fait ce métier-là, mais en plus, vous faites bien d'autres choses également.
Tout à fait.
Ouais. Alors, on vous applaudit une nouvelle fois.
Merci. Oui, voilà.
Et tout le monde ici porte plus qu'un chapeau. Alors, ce sera à vous de nous montrer les autres chapeaux que vous portez, d'accord? Et puis, elle a failli être candidate du Parti libéral dans un comté important. Elle a perdu il y a quelques jours, mais c'était par rapport à un ami, un collègue, c'est ça?
Exactement.
Donc, ça s'est fait en toute amitié.
Voilà.
J'ai vu une vieille photo de vous. Vous étiez toujours très belle et jeune à l'époque. Vous l'êtes encore.
Ça faisait 5 ans, là.
Oui, c'est ça. Oui, dans 2013, ça. Vous étiez candidate dans le comté de Kirkland.
Oui, dans la ville de Kirkland.
Dans la ville de Kirkland, d'accord. Oui. Et puis, est-ce que vous avez...
Je suis actuellement attachée politique pour le maire de Pierrefonds, Roxborough.
D'accord. Alors, c'est que vous avez ce désir de faire de la politique. Vous en faites un petit peu parce que vous êtes responsable des politiciens autour de vous.
Voilà.
Est-ce qu'un jour, vous allez finalement avoir cette chance de représenter non seulement votre communauté, mais les Québécois autour de vous?
Tout le monde, oui, effectivement. Moi, je suis née à Montréal, donc montréalaise de souche, j'aimerais dire. Mais aussi, on a tous un... Peut-être pour certains, on est né ou on a des parents qui sont d'origine... Moi, ma mère est française, mon père est libanais.
Ouais.
Donc, je suis canadienne, mais aussi de différentes origines.
Adèle, c'est vous qui avez choisi les gens autour de la table.
Ouais.
Hein? Vous nous rendez toujours ce service fantastique parce que vous connaissez les gens de la communauté. Qu'est-ce qu'ils ont en commun aujourd'hui, ces jeunes?
En fait, ce qu'ils ont en commun, moi, je passe toute une année en train de voir des gens. Je les analyse, puis au bout d'une année, j'ai choisi ces gens-là. Pour moi, ces gens-là, ils ont quelque chose à apporter à notre communauté. Ils incarnent le lendemain, l'avenir. Et réellement, réellement, j'ai confiance en eux. J'ai choisi les meilleurs qui me semblent qu'ils ont du potentiel. Non, ben, vous le connaissez déjà. Et j'espère que je continuerai à faire cette mission-là d'année en année, que je passerai toute une année en train de voir des gens autour de moi et que je choisirai certains. Mais j'espère de tout mon cœur que d'ici quelques années, vous grandissez encore et encore et que vous accomplissez surtout votre mission, votre tâche et que vous soyez pour votre communauté, pour le Québec et pour le Canada.
Merci beaucoup.
Fantastique. Adèle, on vous laisse. Filer.
Merci beaucoup. Hein,
il est responsable de tout le salon, après tout. Il ne faudrait pas qu'on commence à tout casse autour de nous. Je voulais absolument vous parler à vous, Amira. Vous, la politique, ça ne vous intéresse pas, hein?
Hein?
Vous ne voulez pas en parler, hein?
J'ai tellement d'autres choses sur lesquelles je peux parler.
Il n'y a pas de problème.
Mais qu'est-ce... tout commence par la politique. Hein?
Oui, c'est
Mais
vrai.
Tout commence par la politique.
Alors, faites-lui une démonstration. Hein? On vous regarde.
Mais réellement, il faut être élu pour pouvoir mettre des choses en marche et changer, pour changer les choses dans n'importe quel domaine. Je pense qu'il faut commencer par la politique pour pouvoir faire ça. Dans ton domaine aussi, l'entrepreneuriat, il faut mettre les lois favorables afin de permettre des changements dans le milieu des affaires.
Bah, c'est juste que je pense que, c'est vrai que je suis complètement d'accord, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent derrière pour appliquer ce que les politiques
tout à fait.
vont faire et tout. Donc je pense qu'il y a la place pour tout le monde, chacun son engagement. Et puis l'essentiel, c'est qu'on travaille tous ensemble pour aller vers un bien commun. Je pense que c'est le plus important.
Parlant,
c'est sûr qu'il faut tout.
Parlant de bien commun, je suis surpris de ne pas vous voir à la manifestation sur le climat qui a lieu, enfin, elle est passée à quoi, 5 rues d'ici, hein? Ça doit vous déranger un peu de ne pas être là.
J'avoue que ça m'a dérangé un peu. Ouais. Ça m'a dérangé un peu, mais j'avais accepté l'invitation juste avant.
Eh oui.
Et pour ajouter une couche, c'est ma fête aujourd'hui.
C'est vrai.
En plus.
Bon anniversaire. On l'applaudit. Ouais.
Je me suis invitée juste pour ça, merci. Et oui, bien sûr, on pense à la marche qui se passe à côté. Ouais. Et ce que je voulais ajouter à ce qu'a dit, à ce qu'ont dit Hussein et aussi Amira, c'est que oui, c'est important les élus ou d'être un élu, etc. Et à Sophie, donc également. Mais encore plus, c'est important de réussir à faire le poids, en fait. Donc à pousser nos idées vers les élus. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je fais partie du Conseil des Montréalaises depuis vraiment quelques temps. C'est un conseil consultatif de la ville de Montréal. Et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'écrire des avis, des rapports de recherche concernant la situation des femmes à Montréal et pour essayer de justement pousser les élus et travailler avec eux, les aider à collaborer avec nous pour faire avancer la situation des femmes à Montréal. Donc c'est vraiment, je rejoins vraiment ce qu'a dit Amira, travailler main dans la main, c'est vraiment important.
Sophie, vous feriez une bonne politicienne ou en tout cas une politicienne hors norme, vous écoutez tout le monde, vous ne parlez pas?
Ben, en fait, oui, effectivement, pour être politicien, il faut savoir écouter, mais aussi pouvoir travailler avec les autres. Et je pense qu'il ne faut jamais dire jamais. La politique, c'est peut-être un domaine qu'on ne veut pas considérer à un jeune âge, mais c'est quelque chose qui peut nous amener aussi à accomplir des projets. Donc, je pense, Selma a dit, il existe différents organismes ou plateformes pour pouvoir faire avancer nos intérêts. Et justement, c'est à savoir... Comment trouver des endroits où on peut se retrouver nous-mêmes, mais aussi pouvoir atteindre nos objectifs. Et justement, là, par exemple, dans certaines municipalités, il existe des conseils jeunesse où justement les jeunes peuvent sensibiliser les élus aux différents enjeux de terrain qui existent et puis pour qu'on puisse arriver à un même objectif ensemble.
Selma, vous travaillez encore avec l'équipe de la mairesse de Montréal, Mme Plante?
Pas directement.
Pas directement, non.
C'est vraiment quand je parle du Conseil des Montréalaises. Ouais. Justement, on est, pour rapidement faire le topo, c'est qu'on est 15 membres bénévoles. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment totalement non partisan.
D'accord.
Et il ne faut pas qu'on soit justement employé de la ville de Montréal. Ah. C'est vraiment un organe consultatif de la ville de Montréal, donc qui est à l'extérieur et qui observe et qui conseille plus qu'autre chose.
Il y a parmi vous des gens qui ont déjà travaillé avec la mairesse de Montréal, levez la main. Vous?
J'ai participé pendant les élections municipales avec Madame Valérie Plante.
Ouais.
Et je voudrais rebondir aussi sur le sujet de la manifestation qui se déroule à l'instant même où on est en train de parler. Et je voudrais dire que c'est une noble cause dont les gens sont en train de manifester. Et je voudrais profiter de l'occasion sur Radio Canada International et m'adresser directement aux dirigeants de cette planète et leur dire qu'il faut bien, que les choses changent, il faut bien qu'il y ait de l'amélioration se fasse maintenant parce qu'on est à bout, comme on dit. Hein. Et... comme a dit la jeune activiste Greta,
ouais.
les générations futures ne vous oublieront jamais ça si vous agissez pas maintenant.
Là, je veux pas embêter personne, mais vous savez, Greta, qui est venu nous rencontrer, là, manifester avec nous. Je pense que c'est Arnold Schwarzenegger qui lui a offert son auto électrique. Elle a été d'accord parce qu'elle veut se déplacer sans créer de nouveaux problèmes. Ouais. Et autour de la table, qu'est-ce que vous avez fait récemment pour l'environnement? On va faire le tour. Est-ce qu'on peut le faire sans vous embarrasser, là? Parce que je n'avais rien fait.
Non, justement, ce matin, j'étais dans une école locale ici, à Pierrefonds-Roxboro, où il y avait une initiative pour justement ramasser les déchets sur les berges de Pierrefonds. Ouais. Donc je pense, effectivement, on peut dire qu'on n'était pas à la marche aujourd'hui, mais on a quand même, c'est important de faire des actions hein, tous les jours. Et puis c'est une action continue, ce n'est pas juste sur une journée. Et je pense, effectivement, il y a toutes sortes d'initiatives locales où les gens peuvent justement s'impliquer. Et puis ça commence chez soi, mais aussi dans notre communauté.
Houssène, vous passez votre tour, on va revenir. On va demander à Amira, qu'est-ce que vous avez fait de bon pour l'environnement récemment?
En fait, je dirais que je vais rebondir sur ce que je fais, qui est ma vraie casquette.
Allez-y.
En plus de la fondation.
Ah, c'est bien,
mais en fait,
c'est
je suis
génial.
Entrepreneur, ah, oui. Puis je suis cofondatrice d'une compagnie qui s'appelle donc Bridger. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises manufacturières et industrielles, donc quand on parle d'environnement, c'est sûr qu'on va aller parler de ce genre de personnes, à identifier le type de technologie dont ils ont besoin pour faire leur transformation digitale. Et puis ce qu'on a fait avec Bridger, c'est que de plus en plus, on ajoute ce volet de transition énergétique pour dire aux entreprises, quitte à vous transformer, on peut faire ça en prenant en considération des technologies qui permettraient de la réduction d'émissions, de la réduction de déchets, de la réduction de beaucoup de choses, tout en augmentant la productivité. Donc je pense que, comme l'a dit Sophie, la marche, je trouve ça vraiment génial. J'aurais vraiment aimé y être aujourd'hui. C'est des moments qui sont importants pour envoyer des messages unis. Mais c'est sûr que le travail doit se faire en profondeur et puis dans toutes les différentes sphères d'activité. Donc il y a des choses vraiment à faire chez nous, personnellement, mais aussi avec toutes les différentes personnes. Puis nous, on essaye de faire ça avec Bridger. C'est notre activité principale et on se dit autant aider dans le bon sens.
Il va falloir rappeler ça, ce mot-là, Bridger.
C'est Bridge, donc pont, B-R-I-D-G.
D'accord.
Mais en fait, on a enlevé le E puis on a mis que un R. Puis ça fait Bridger. Pourquoi? Parce qu'on construit un pont entre les entreprises manufacturières et industrielles. Donc c'est vraiment toute la chaîne de valeur.
Ouais.
Et la technologie dont ils ont besoin. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un robot? Est-ce que j'ai besoin d'une technologie verte? Est-ce que j'ai besoin de réalité augmentée? Enfin, tout ce genre de mots. On entend beaucoup intelligence artificielle à Montréal. Donc, est-ce que j'ai besoin de ça? De quoi j'ai besoin? Et puis, qui est la personne la plus à même à répondre à mon besoin en me fournissant cette technologie?
Je vais vous poser, il faut que je revienne à la question initiale, sinon ça n'a aucun sens. Je ne pouvais pas sauter à une autre question. Qu'est-ce que vous avez fait de bon pour l'environnement récemment?
Je suis arrivée à vélo.
Ouais.
Non, mais plus sérieusement, effectivement, mes actions au quotidien, je pense, je rejoins ce qu'a dit Sophie, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Oui, c'est bien de lancer des appels forts comme la marche pour le climat, mais également qu'est-ce qu'on fait au quotidien. C'est tout bête, je suis descendue, j'ai pris mon vélo, j'ai pris mon casque, et je me suis dit, je vais arriver ici, j'aurais très envie d'un café, et je suis remontée pour prendre ma tasse réutilisable. C'est tout bête, mais on y pense. Moi, j'y pense vraiment rarement. Et à côté de ça, j'avoue que j'ai diminué ma consommation de viande de 90% depuis que je suis arrivée au Québec. Et je sais que c'est pas possible dans tous les pays, parce qu'à chaque fois que je repars au Maroc, par exemple, donc d'où je suis originaire, je mange de la viande. Et déjà, ma mère, elle comprendrait pas. et à côté de ça, c'est vraiment, je veux pas faire justement la personne qui donne des grandes lois, des grandes leçons, exactement, merci. Mais vraiment, si à un autre niveau, on peut agir, pourquoi ne pas le faire? Pour moi, c'était vraiment très très simple de diminuer ma consommation de viande. Et comme je vous ai dit, je n'en cuisine pas à la maison. Et quand je vais au Maroc, j'en prends, malheureusement. Mais je me sens en très bonne santé, je fais beaucoup de sport et tout va bien.
C'est fantastique. Moi aussi, je fais beaucoup de vélo en passant, mais un peu moins ces temps-ci, parce que moi, j'habite à la ferme, à la campagne, et pour venir au travail, j'ai une auto électrique, et mon auto électrique est alimentée par des panneaux solaires. Alors, je consomme quand même un peu d'électricité l'hiver pour chauffer la maison, mais je suis sur le point de changer ça. Je vais chauffer un petit peu plus au bois qui pousse sur la ferme. Alors, je ne veux pas vous donner de leçons non plus, là.
Je suis impressionné.
Ce qui m'impressionne, c'est lui, à côté de vous.
Ah ouais.
On lui a pas parlé beaucoup,
Non, c'est vrai.
Mais la pression.
Parce que son nom, c'est Houssène Redal, excusez-moi. Ouais. Je suis perdu dans mes affaires. C'est ça.
Stress.
C'est gentil. Alors vous, vous êtes quelqu'un qui, en principe, si on voyait une photo de vous, j'en ai vu des photos de vous, là. J'ai fait un peu de recherche, mais les gens qui seraient sur la rue, est-ce qu'ils vous reconnaissent des fois?
Ben, pour les fans de soccer, bien évidemment, des fois, ils peuvent me reconnaître, vu que je joue à l'Impact de Montréal, ouais.
Ouais. Ça mm-hmm. arrive souvent, c'est la question.
Non, ça arrive. Je dirais pas que ça arrive souvent parce que je suis plus avec l'Impact depuis à peu près 5 ans, mais c'est sûr qu'au moment où je jouais avec l'Impact, ça arrivait pratiquement à chaque jour où quelqu'un va me donner un commentaire tout simplement pour me motiver, pour m'encourager ou pour tout simplement me donner des mots d'encouragement par rapport à un match qui s'en vient.
Parce que, Reda, ce qui est exceptionnel chez vous, c'est que vous avez refait votre vie à 20 ans?
25.
25 ans? Ouais. Vous avez 25 ans, là?
Non, 28.
28?
Oui.
Ah bon, vous m'avez dit 25 aujourd'hui.
J'ai l'air plus jeune.
Oui, c'est ça. Alors, vous avez refait votre vie, et les gens qui refont leur vie, en général, ils ont 40, 45 ans, 50 ans et plus. Exact. Vous l'avez fait très jeune en se disant, tout le monde a cette image de moi comme footballeur, j'ai beaucoup de succès, j'ai eu beaucoup de succès, mais je veux plus dans la vie, je veux donner plus. Mm-hmm. Je veux moins recevoir, peut-être. Il y avait peut-être ça.
On peut dire ça.
Ouais. On peut dire ça.
Ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le monde du sport professionnel, c'est tellement exigeant. Et ce qui m'est arrivé, c'est que en 18 ans où j'ai commencé à jouer professionnellement et 25 ans, j'ai beaucoup évolué en tant que personne. Et il y avait des choses que je remarquais dans ce monde-là qui me plaisaient un peu moins, comme le fait, par exemple, qu'on privilégiait pas le côté humain. On était vu comme des chiffres, comme j'expliquais à Amira tout à l'heure. Donc, si on était blessé, l'entourage de l'équipe nous parle un peu moins, ils s'en font un peu moins pour nous. Alors que quand on commence à marquer des buts, par exemple, le matin, on va nous saluer, on va être aux petits soins avec nous. Et cette hypocrisie-là, j'aimais pas trop ça. Et j'ai remarqué que c'était tout simplement, c'est ce que le métier demande, si on veut. Et je me suis dit que ça m'intéressait plus. Et le matin, quand je me réveillais pour aller aux entraînements, j'avais plus la même motivation, j'avais plus le même feu pour aller m'entraîner. Et c'est tellement exigeant que tu ne peux pas être à 60%, 80%. Si tu n'es pas à 100%, ça ne sert à rien de le faire. Et donc, j'ai pris la décision tout simplement de changer de carrière. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce qui a facilité ce choix, c'est que j'ai vécu certaines expériences marquantes dans ma vie dans le sport. J'ai pu jouer contre mes joueurs préférés, j'ai pu jouer dans des stades de 65 000 personnes, j'ai fait des compétitions un peu partout dans le monde. Donc tout ça, ça a été des choses positives que j'ai pris de ce parcours-là. Et ça a été plus facile pour moi de prendre cette décision-là, de regarder autre chose, parce que j'avais déjà expérimenté ce rêve-là que j'avais depuis 4 ans.
Alors parlons de cette autre chose, parce que vous donnez beaucoup aux gens qui sont plus jeunes.
Exactement.
Et qui ne sont peut-être pas tout à fait outillés ou ils n'ont pas reçu toutes les bienfaits du bon Dieu, si vous voulez. Là.
Mm-hmm.
Enfin,
ouais.
Il leur a manqué des choses et vous essayez de pallier.
Ouais, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai commencé à faire des conférences. Et j'ai vraiment aimé ça parce que je voyais l'impact que ça avait chez les jeunes. Et quand je repensais à mon parcours, moi, quand j'avais 13, 14 ans, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux devenir joueur de soccer professionnel. Mais je n'ai jamais rencontré une personne sur laquelle je peux m'identifier. Ça veut dire quelqu'un qui me ressemble, un Marocain ou un Maghrébin ou peu importe, qui joue au soccer à l'Impact de Montréal. Donc, il n'y avait personne sur qui je peux moins m'identifier. Donc, j'ai un peu fait ce parcours-là tout seul. Mais là, maintenant, je veux être la personne sur laquelle ces jeunes-là peuvent s'identifier pour croire en leur rêve, tout simplement. Et ça peut être en lien avec le soccer, mais ça peut être en lien avec...
Vous avez parti une compagnie.
Oui, ça, c'est un côté... pas en parallèle, disons, l'entrepreneuriat. Oui, j'ai commencé une compagnie de recrutement dans le domaine du TI. Mais ça, c'est pour, on va dire... gagner ma vie, mais en même temps, nourrir la compétition qui me manquait que j'avais plus parce que je jouais au soccer et aussi avoir des ambitions entrepreneuriales tout simplement. Mais le côté conférence est plus un impact que je veux avoir chez ces jeunes là parce que quand après chaque conférence, pour les gens qui me connaissent, après chaque conférence ça me prend vraiment quelques heures avant de revenir à moi-même parce que c'est des émotions qui sont tellement spéciales que je vais en refaire. Et là, ça fait 3 ans que j'en fais.
Reda est très proche de ses émotions.
Oui.
Mais ça ne le déséquilibre pas. Hein. On ne le sent pas dans sa voix qu'il est déséquilibré. Là. Et vous savez où le centre se trouve pour vous.
Hein. Oui.
Vous savez où ça se trouve. C'est fantastique, ça.
100%, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et ça vient du monde du soccer parce que dans un environnement où tu dois performer à 100% à chaque match, tu dois savoir te recentrer et te concentrer sur ce qui est important.
Ouais.
Parce que quand je jouais plus jeune dans une équipe un peu plus récréative, il n'y avait pas de pression. Mais une fois que tu rentres dans le monde professionnel, tu n'as pas le droit à l'erreur, tout simplement. À chaque match, t'es là, c'est ton métier, donc tu es là pour performer et tu vas le savoir si tu ne performes pas bien.
L'essentiel aujourd'hui, c'est de parler de vous. Mm-hmm. Ça va jusqu'à maintenant? Pas de souci? Qui n'a pas assez parlé de lui-même?
C'est largement suffisant. Alors.
Écoutez, j'ai un projet pour nous tous, là.
Excusez-moi, peut-être pour rebondir un peu sur ce que Houssen a dit par rapport à l'émotion et puis l'impact qu'on veut avoir auprès des jeunes. Je pense effectivement, nous, en tant que mi-jeunes, parce que les jeunes, ils sont un peu différents de nous aujourd'hui, mais je pense effectivement, c'est très important d'avoir dans tous les milieux, d'ailleurs dans tous les domaines, des personnes à qui on peut s'identifier. On parle souvent dans le cinéma, les Arabes en général n'ont pas nécessairement des stars ou des idoles, ou la représentation des Arabes n'est pas nécessairement à son meilleur actuellement. Mais je pense, si je peux parler aussi un peu de mes expériences personnelles où j'ai senti un peu cet impact-là que je pouvais avoir auprès des jeunes, c'était récemment justement durant ma campagne pour briguer l'investiture au Parti libéral de Pierrefonds Roxborough. J'étais allée à la rencontre de jeunes dans un camp de jour qui étaient assez dominé par les jeunes filles. Et puis justement, c'est sûr que la politique, c'est pas un domaine dans lequel on voit beaucoup des femmes ou encore moins des jeunes. Et donc, je dois dire que j'étais peut-être accueillie comme presque une star de soccer. Et mais justement, et je pense, en fait, je pense que c'était une des meilleures expériences, parce que justement, bon, il y a l'innocence des enfants, mais aussi le fait qu'ils peuvent se dire « Ok, moi, un jour, j'aimerais bien aussi être Premier ministre ou député ou quoi que ce soit. » Et puis justement, pouvoir leur donner cet espoir que tout est possible si on veut vraiment y arriver. Et même si on n'y arrive pas au moment où on veut, bah, il faut toujours continuer à essayer.
Houssen, vous... Non, allez-y.
Non, allez-y. Non.
Je voulais laisser la parole à Houssen. Il ne fait pas ça souvent, à parler au micro. Alors, Houssen, vous portez plus qu'un chapeau.
Oui.
En plus de la radio, il y a des choses très sérieuses que vous faites, et des changements sérieux, c'est-à-dire des choses qui vont vous mener à des pas importants plus tard dans votre vie, je pense. J'encadre ça comme ça. Là, vous partez avec le ballon.
OK. Alors, moi, ça fait, pour revenir, pour cadrer un peu, ça fait 5 ans que je suis là, je suis d'origine tunisienne. Ça fait 5 ans que je suis au Canada, j'ai fait un AEC en juridique, et j'ai fait une aussi... J'étudie en droit, je fais un bac en droit. Entre-temps, je suis animateur radio à Média Maghreb 104.5 FM 1450 AM à Montréal. Et aussi, je suis activiste, on va dire activiste politique. Je me définis comme activiste politique. J'ai eu une expérience ici au Canada avec Madame Valérie Plante pour les municipalités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, ce mois-ci, je participe dans les élections tunisiennes avec le parti Tahia Tunis pour les élections tunisiennes qui se passent, les élections présidentielles qui se sont passées déjà, ça fait 2 semaines. Et il y a les législatives qui se passent dans 2 semaines. Alors aussi, j'invite les gens à aller pour voter. Il y a un bureau de vote ici à Montréal et un autre à Ottawa.
Et ce parti, est-ce qu'il... Moi, je ne connais rien à la politique. Hein. Okay. Ce parti, est-ce qu'il est proche des couleurs du Parti libéral, de Sophie? Oui.
Moi, je vois que c'est un parti qui est plus, qui a une démarche libérale, une vision libérale de l'économie. Qu'est-ce que je vais dire là-dedans? Mais je pense que les gens déjà connaissent. C'est un parti, c'est le chef du gouvernement qui est le chef du parti, c'est M. Youssef Chahed.
Oui.
Il y a aussi les élections, on n'a pas gagné dans les élections présidentielles, on est venu 4e puisqu'il y a la démocratie en Tunisie, hein, et c'est rare de trouver ça dans des pays maintenant, parce que normalement il y a ni le ministre de la Défense, ni le premier ministre actuel, ni un ancien président qui est dans les deux premiers, qui est passé au deuxième tour. C'est une autre personne, c'est deux personnes qui ont jamais fait de la politique, qui n'étaient même pas dans la sphère politique auparavant.
Des vedettes de télé-réalité peut-être?
Un des deux, c'est un propriétaire de chaîne télévision, mais le deuxième, c'est un professeur universitaire.
J'avais une question, moi, pour Sophie et pour Houssen. Vu que vous êtes quand même assez jeune, physiquement, quand on vous voit, est-ce que ça peut arriver quand on vous accorde moins de crédibilité, vu que vous êtes plus jeune,
dans un monde où on va commencer par les femmes.
Reda, je pense que je suis plus vieille que toi.
Non, mais je parle de physiquement quand on voit tous les deux. On a l'habitude de voir des gens beaucoup
effectivement,
plus...
Effectivement, moi j'ai tout essayé pour avoir l'air plus vieille que mon âge, mais ça marche pas. Mais je pense effectivement, c'est malheureux, mais effectivement, les gens ont tendance à pas nécessairement dire ah oui toi qu'est-ce que t'en sais de la politique, encore plus une femme. Mais la politique c'est pas un domaine pour toi. J'ai eu droit à toutes sortes de commentaires malheureusement là. On pense qu'on vit dans un monde assez libéral, mais même au Canada parfois on fait face à des gens qui sont un peu résistants à ces idées-là. Mais par contre je pense que en tout cas pour moi personnellement ça m'a toujours c'est ce genre de commentaires-là qui m'a toujours motivé justement effectivement. Et puis je pense aussi que quelque chose que je disais durant ma campagne c'est que il faut qu'il y ait une diversité. Je veux dire le Parlement canadien doit représenter la population. Et puis, quand on voit des manifestations comme aujourd'hui, c'est justement pour montrer que les jeunes, ils sont peut-être pas assez dans les tables de décision, mais ils ont aussi un mot à dire. Et puis, les politiques qu'on prend aujourd'hui ont un impact sur les générations futures. Donc, je pense que c'est, il faut pas se laisser abattre. Et puis, je pense que c'est dans tous les domaines comme ça, probablement dans le sport aussi.
Même en entrepreneuriat en général, hein, je pense que c'est un petit peu partout où on a des remarques de « ah, t'es jeune, ah, tu sais pas de quoi tu parles », ce genre de choses. Mais oui, ça motive en même temps. Et puis de toutes les façons, on n'a pas le choix, on a l'âge qu'on a. Et si on veut faire quelque chose, ben on est obligé de se battre.
Pour répondre à ta question, moi, contrairement à ce que les gens pensent, moi, je pense que c'est un atout d'être jeune et de pouvoir se tremper et avoir des idées, changer d'idées et regarder plusieurs visions des choses. Et à un certain âge, on aura assez de maturité pour... Même à un certain âge, on peut avoir une certaine maturité avec l'expérience. C'est l'expérience qui fait qu'on peut choisir et on peut avancer dans la politique. Et je pense que pour une personne qui commence, par exemple, là, moi, j'ai 25 ans, qui commence à... Moi, j'ai commencé à 14 ans à être dans la société civile, à faire du bénévolat. Et j'en fais encore pour voir les choses en Tunisie et là, au Canada, depuis 5 ans que je suis venu ici. Je pense que tout ça peut me permettre d'avoir une idée à un âge moins que d'autres personnes qui commencent la politique à 40 ans. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt.
100%, c'est vrai.
Qui à l'heure?
Il est encore trop tôt.
14h57.
Non.
Il est précis.
Vous êtes sérieux?
Oui.
Oh là là, non, il n'y a pas de problème. Okay. Il n'y a pas de souci. Cette émission dure au moins 45 minutes.
Vous vous ennuyez?
Hein?
Vous ennuyez?
Non, je ne m'ennuie pas, mais c'est parce que je voulais être sûr de vous poser ma prochaine question. Okay. Parce que j'avais fait une promesse à Amira de ne pas parler de politique aujourd'hui. Et puis là, je pense que c'est raté. Hein? Mais je lui ai fait la promesse de lui demander, de lui poser cette question. Elle est la seule qui est prévenue. Les autres, vous êtes un peu pris au dépourvu. Je lui ai demandé l'autre jour, imaginez une entreprise que vous aimeriez créer, un projet fantastique, quelque chose qui demande... Enfin, c'est du brainstorming, hein, on y va avec les idées qu'on veut. Et vous allez chercher qui pour créer cette entreprise de l'avenir. Bien sûr, ça pourrait être dans l'environnement, ça pourrait être dans la culture.
On a le droit à une personne?
Non, vous pouvez tous répondre, mais on peut commencer par vous.
Et qu'est-ce qui se passe si on a déjà fait ça?
Ben, vous améliorez le projet? Vous allez chercher les subventions?
Mais c'est drôle parce que c'est un petit peu ce que j'ai fait avec Bridger. En fait, donc juste pour savoir, je suis au Canada depuis 2012. Je suis venue pour faire une maîtrise après un diplôme de génie en informatique. Et puis en finissant, la question là, qu'on pose à tout le monde, tu rentres, tu restes, tu fais quoi? Et puis ça a été une des raisons pour laquelle je disais, OK, on avait une problématique, puis lancer une compagnie me permettait de pouvoir bouger et puis de travailler comme on veut. Puis moi, je suis allée chercher mon cofondateur qui s'appelle Mehdi, et qui n'est sûrement pas en train de regarder cette émission, donc je peux parler sur lui, mais en fait qui lui vivait en France et avec qui on avait travaillé ensemble sur d'autres projets quelques années avant. Puis on s'est revus après 2 ans, on s'était revus en Algérie, et puis j'avais dit écoute, il y a définitivement un problème à mettre en lien les entreprises industrielles ont vraiment beaucoup de problèmes, puis je pense qu'on peut vraiment aider économiquement à l'industrialisation puis à l'augmentation de la productivité de ces entreprises de manière à ce que ça se fasse mieux, que les gens travaillent mieux, qu'on aille vers des environnements plus propres et tout. Est-ce que ça dit de venir au Canada et puis de lancer cette compagnie? Puis c'est ce qu'il a fait. Je sais toujours pas pourquoi, mais donc c'est ce qu'il a fait. Puis je suis allée le chercher. Il est là. Puis ça fait 3 ans et demi qu'on essaye de faire ça et puis d'améliorer les choses. Et on fait ça ici, mais aussi avec des compagnies en Afrique du Nord. On a des fournisseurs sur 22 pays aujourd'hui.
C'est vrai.
Ouais. Ben, quand, je pense que comme c'est la technologie, c'est la même partout. Les entreprises manufacturières, industrielles, sont tous sur des marchés internationaux aujourd'hui. Donc, ont tous des problématiques très, très, très similaires.
Ouais.
Et donc, quel que soit où ils sont, on est capable de les aider en leur disant que toi, il te faut cette technologie de là. Et puis, d'aller chercher un petit peu les bonnes personnes, les bonnes technologies, quel que soit où elles sont.
Ouais.
Puis, le fait un petit peu d'être immigrant, de venir de différents horizons et tout. Je pense qu'on a cette facilité à voir le monde comme un monde plus que juste où on a grandi, où on est et tout. On se dit, OK, on a déjà fait le pas. Donc, on va pas se limiter à rester là, mais à essayer de travailler ailleurs.
Est-ce que quelqu'un comme Stephen Gingwo, du Parti libéral, bien connu dans le monde de l'environnement, pourrait faire partie de votre équipe ou il est trop vieux?
Ben, en fait... non, tout le monde peut faire partie de mon équipe au final. L'essentiel, c'est d'apporter quelque chose à la table. Non, nous, ce qu'on regarde quand on va chercher des gens, c'est vraiment déjà le pourquoi. On est une start-up, donc il y a de l'instabilité, il y a des hauts et des bas. On est en train de construire quelque chose, puis c'est pas tout le monde qui a envie de construire. Il y a quand même beaucoup de profils qui veulent juste continuer, puis c'est normal, on a besoin de tout. Donc on cherche des gens qui veulent construire, qui ont à cœur les valeurs humaines, parce que le monde dans lequel on est, le monde industriel, c'est un monde où l'humain est très important. On parle de transformation technologique, mais il y a une vraie transformation aussi où l'humain est au cœur de cette transformation qui est très important. Donc où l'humain, les valeurs sont importantes, le pourquoi on fait ça, la vision. Puis ce qu'on veut faire, nous, c'est d'apporter les visions de chacun, puis d'essayer de construire avec ça. On n'est pas obligé de vouloir faire la même chose, mais on peut s'entraider à arriver vers un même endroit.
Seulement, je pense que vous, ce ne serait pas du développement industriel, ce serait du développement humain, et vous êtes déjà là-dedans.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus si vous étiez patronne d'une entreprise, sans vous jouer à la patronne, là, mais si vous étiez... Vous auriez le goût? Oui?
Je peux jouer à la patronne.
D'accord.
Non, en fait, quand j'écoutais Amira, ça m'a vraiment ramené 10 années en arrière, parce que justement en voyant des personnes originaires du Maghreb et vivant au Québec aujourd'hui, nécessairement, moi, ça me ramène à où j'étais. Et moi, j'étais conditionnée avec mon parcours académique au Maroc à justement aller dans une entreprise et à travailler en ressources humaines, parce que j'avais une maîtrise en ressources humaines, mais ça remonte à il y a 10 ans. Et à un moment, je me suis vraiment écoutée parce que Stéphane, on a beaucoup parlé d'engagement au téléphone quand on préparait également cette émission. Et l'idée, c'était à quel moment, pourquoi tu t'engages, à quel moment tu as finalement franchi le pas. Et c'est ce moment-là où j'étais face à mon ordinateur dans une entreprise où tout le monde me disait « ne bouge pas, fais ta carrière ici, tu vas continuer, ne réfléchis pas finalement, vraiment continue, tu as enfin trouvé ta place
okay. ».
Et là, je me suis dit, mais Selma, écoute-toi, est-ce que tu penses que toi, c'est ta place? C'était très reposant, hein, vraiment. Je pouvais faire toute ma carrière là-bas. Et finalement, je me suis écoutée et j'ai quitté cette entreprise au bout de quelques mois. Et je suis allée dans le milieu communautaire, donc à Casablanca, au Maroc. Et j'ai travaillé dans une petite association qui défend les droits des enfants en situation de rue, donc toujours à Casablanca, qui existe toujours d'ailleurs. Ça s'appelle Beiti, qui est ma maison. Et depuis, c'est vraiment l'humain qui est au cœur de mes préoccupations et de mes engagements. C'est-à-dire que juste après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé pour être journaliste. Je me suis dit, journaliste, j'aime les gens, je sais écrire. Allez, on va mixer ça. Naïvement, je me suis dit ça.
Ah ouais.
Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Et pendant 3 ans, c'est ce que je leur ai dit en entretien d'embauche, ça a marché. Donc j'ai écrit dans la rubrique société alors que tout le monde me disait non mais ton CV dit que tu dois écrire en économie. Tu dois écrire en économie. Et cette histoire m'a suivie vraiment longtemps. Je me suis dit mais entre ce que je dois faire et ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais choisir? Et je me suis dit je veux écrire dans la rubrique société. Je veux aller vers les gens, comprendre ce qui ne va pas et le montrer à tous les lecteurs du journal pour lequel je travaillais. Donc tout ça juste pour dire que aujourd'hui, j'ai réussi à fusionner qui je suis et vraiment ce que j'aime. Parce que toujours on dit, ah, les chercheurs, ils sont au-dessus de la mêlée, ils se croient supérieurs, ils apportent leur savoir. Moi, je suis vraiment... il y en a certains, certaines. Mais vraiment, je suis une chercheuse de terrain. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment aller vers les personnes qui vont pas bien et utiliser les outils que j'ai appris à l'université, finalement, pour transmettre leur vécu. Parce que je me dis, je suis juste une porte-parole. Et aller vers les gens, justement, qui ont du pouvoir. Donc, je montre Sophie, mais c'est vrai. Ensuite, juste faire l'interface, jouer à l'interface entre les individus qu'on côtoie au quotidien et les personnes qui peuvent changer leur réalité. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint le Conseil des Montréalaises, donc en tant que bénévole. Et c'est pour ça qu'à côté également, je fais partie du CA, de la Fondation Parole de Femmes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais notre objectif, c'est de créer des espaces de parole pour les femmes racisées et les femmes autochtones. Donc, dernièrement, on a organisé un micro ouvert. Donc, c'est vraiment des moments où les femmes se sentent valorisées. Les femmes racisées, et elles nous disent merci, ou quand on monte sur scène, on dit « Ah, je me reconnais dans ton parcours », ou « Ah, merci ». Le hochement de tête fait que ça confirme qu'on ne fait pas ça pour rien. Et c'est mon moteur au quotidien. Et actuellement, pour terminer, Stéphane, je ne vais pas être très longue, je travaille à la table de quartier de Montréal-Nord, donc j'ai 1000 vies en même temps, depuis 2 semaines. Et on est en train d'organiser un forum citoyen. Donc vous entendez parler ces derniers temps de Montréal-Nord comme l'endroit où on a peur d'aller. J'y vais tous les jours, tout va bien. Et également l'endroit qu'on oublie, où les organismes communautaires ne reçoivent pas beaucoup de financement. Donc je tenais aussi à le dire à l'antenne, parce que ça me tient beaucoup à cœur. Et voilà, juste dire que c'est possible, même si on a un CV qui ne correspond pas à ce qu'on fait, de faire ce qu'on veut. Parce qu'à 17 ans, c'est très difficile de choisir au lycée, parce que moi, je viens d'un système, disons, français, donc j'étais équivalent cégep, mais un peu plus jeune, de choisir notre orientation professionnelle.
Je remarque parmi vous des gens qui décident d'avoir un employeur, d'autres qui décident de diriger leur avenir par eux. Hein? Je pense qu'il y a quelque chose en commun, là. Même si des fois, comme vous, vous avez un emploi pour gagner votre vie en information, en technologie de l'information, il y a aussi tout le reste qui fait que vous êtes capable de faire ce que vous aimez faire, même si vous devez gagner votre vie. Ça, c'est important, gagner sa vie. Moi, j'appelle ça un handicap, un problème. Ça nous empêche de faire des bons, des fois, de faire des choses. Elle l'a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre autour de la table qui n'a pas fini de bondir, qui aimerait bondir encore un peu plus et qui aurait un projet d'avenir? Levez la main, s'il le faut.
Oui. Présentement, je suis en train de travailler sur un projet qui me tient vraiment à cœur avec 4 autres personnes, et c'est un organisme en fait qui va venir en aide aux plus jeunes. Et nous, notre mission, c'est de supporter les jeunes, tout simplement. Puis on veut intervenir sur... Il y a 3 axes vraiment qui nous intéressent. Le premier, c'est on veut créer une équipe de conférenciers qui vont avoir leur parcours, un parcours différent, et qu'on va pouvoir envoyer aux écoles pour qu'ils puissent inspirer ces jeunes-là. Et ces conférenciers-là, ils vont devoir, on va les matcher avec les écoles dans lesquelles ils vont faire leurs conférences. Et pour éviter le problème que moi j'ai eu quand j'étais au secondaire, ça veut dire que si on prend l'exemple de Montréal-Nord, on sait qu'à Montréal-Nord, il y a une communauté maghrébine, il y a beaucoup d'Haïtiens. Donc on va essayer de trouver des conférenciers sur lesquels ces jeunes-là peuvent s'identifier. D'accord. Pour que ça soit encore plus efficace. Le deuxième axe, c'est sportif et académique. Donc au niveau du sport, vu que j'ai joué à l'Impact de Montréal, ben, je vais probablement profiter des relations que j'ai à l'Impact de Montréal pour créer des partenariats avec le club. Et aussi, le troisième axe, et ça c'est vraiment intéressant, c'est on veut créer des formations qui sont dédiées qu'aux parents. Donc,
ah bon?
L'idée vient tout simplement du fait que, au jour d'aujourd'hui, si par exemple moi je veux devenir chauffeur de taxi, on m'exige de faire des permis particuliers, des formations particulières pour avoir ce permis-là. Alors que pour être parent, un homme, une femme, ils ont un enfant et ils sont laissés à eux-mêmes un peu.
Ouais.
Et donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer une formation qui peut aider ces parents-là en les outillant avec les différents problèmes qui peuvent arriver. Dans la vie d'un enfant. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand l'enfant va venir avec nous, il aura un message de la part de l'organisme, et quand il va aller à la maison, il va avoir un message qui est sensiblement pareil. Il va pas avoir un clash dans ce qu'il reçoit comme information, et comme ça on peut s'assurer que l'enfant il va progresser dans de bonnes conditions.
Houssaine, vous avez certainement beaucoup de créativité, je le sens. Est-ce que vous avez un projet d'entreprise, quelque chose qui vous ferait vraiment là, plaisir de créer?
En fait, par rapport à ça, je voudrais dire que je porte une autre casquette aussi, que je suis vice-président de la Jeune Chambre tunisienne du Québec. Et on travaille beaucoup sur le développement entre la Tunisie et le Canada, puis sur différents domaines. On a eu l'occasion de faire déjà sur une année deux missions commerciales avec une délégation d'entrepreneurs qui en est allé en Tunisie au mois de novembre dernier, fin de novembre dernier, afin d'emmener des entrepreneurs québécois et canadiens en Tunisie pour leur faciliter le milieu tunisien, l'écosystème, plus facilement.
Quel genre d'entrepreneurs?
Différents domaines, c'est plus dans la technologie. Je suis pas du domaine, mais c'est des gens qui s'intéressent à la technologie. Le Canada est un pays qui est développé dans ce sens-là, et on voulait emmener ces gens-là afin de donner leur expertise dans ce domaine aux Tunisiens. On a eu une autre mission aussi au mois de juin dernier avec une délégation officielle canadienne, québécoise, avec la ministre de la francophonie qui est partie aussi avec nous en Tunisie afin de préparer le sommet de la francophonie qui va se passer en Tunisie en 2020. C'est un sommet pour des pays francophones et c'est la Tunisie qui va se passer en Tunisie au mois de novembre 2020.
Très belle occasion pour vous.
On travaille sur ça aussi avec l'administration québécoise et canadienne et aussi avec l'administration tunisienne pour ce qui est du privé et de l'étatique aussi.
Sophie, je sens que vous n'avez pas encore fait ce que vous devez faire dans la vie. Attendez un peu.
En fait, même si je n'ai pas accompli ce que je voulais accomplir, oui, je continue toujours à travailler dans le domaine. Et puis peut-être, si je peux mentionner, au lendemain des élections fédérales de 2015, avec certaines personnes qui étaient intéressées, on a cofondé un organisme qui s'appelle le Réseau canadien pour la participation civique. Et essentiellement, on avait remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'implication auprès des jeunes. Et auprès aussi de la communauté arabe de Montréal. Et donc, on s'était dit, on va créer cet organisme-là pour essayer d'inciter les gens à participer non seulement dans la politique, mais aussi au sein de leur communauté. Et moi, je pense qu'il y a peut-être un message qu'on peut tous se mettre d'accord et peut-être de dire aux personnes qui nous regardent, c'est que s'impliquer, c'est non seulement un bénéfice personnel ça nous permet de grandir et de gagner la confiance en soi et puis de sentir qu'on contribue à notre société d'une manière ou d'une autre, mais aussi de pouvoir inciter les gens à aussi s'impliquer pour pouvoir créer des réseaux, parce que justement ces réseaux-là, on ne sait jamais si on peut les utiliser pour créer une entreprise ou pour fonder un organisme communautaire ou des possibilités d'emploi. Donc je pense que souvent c'est les choses qu'on fait sur le côté à l'extérieur de notre travail. Bien que je fais de la politique 24 heures durant mon 8 à 5, je fais aussi de la politique après 5 heures. Donc, je pense qu'il y a toujours de l'espace pour pouvoir s'impliquer. Et puis, on fait partie d'une génération peut-être qui n'est pas satisfaite avec notre emploi et on veut en donner encore plus, puis donner un sens à notre vie, là, faire un impact, je pense.
Amira?
Ajouter que je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, moi, je suis entrepreneur, mais je fais énormément de choses à côté. Je suis sur le conseil d'administration du CDCA, qui est le conseil de développement canado-algérien, mais aussi sur le conseil de la Fondation Club Avenir. Et puis, j'ai écrit un livre il y a quelques mois. et puis, en fait, je pense que quand on parle d'impact, il s'agit de... En attendant, moi, on me l'a dit. On m'a dit, écoute, t'es entrepreneur, t'as lancé ta... Focus juste sur ça, puis il n'en fait rien d'autre. Et puis j'adore ce que je fais, on a un réel impact sur l'économie, et puis je le dis là, je vais en profiter, si vous êtes une entreprise manufacturière, venez nous voir, on peut vraiment aider. Mais en même temps, je suis une personne qui a besoin de faire beaucoup de choses pour en fait pouvoir avancer, et je pense que quand on a le message que j'aimerais donner, c'est s'il y a quelque chose que vous voulez faire ou qui vous déplaît ou sur lequel vous avez envie d'avoir un impact, il faut pas hésiter. C'est pas vrai qu'une chose empêche l'autre. La preuve, j'ai lancé une entreprise et j'ai écrit un livre en même temps. Puis je fais aussi plein d'autres choses à côté. Et c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on a envie de faire et jusqu'où on veut aller. Puis il faut laisser personne nous dire qu'on n'est pas capable. Il faut essayer. Puis ça ne marche pas. Il y a plein d'autres choses que j'ai essayé de faire qui n'ont pas fonctionné. Et donc ça ne marche pas tout le temps. Mais au moins, on essaie. Puis on est une génération qui a cette facilité, je pense. On a la chance de pouvoir changer de cap, de pouvoir changer sa vie à 25 ans, à 30 ans, à 45 ans, à l'âge qu'on veut. On a les outils autour de nous. On est dans un pays quand même qui nous donne cette opportunité de pouvoir aller chercher des ressources. Donc en fait, c'est plus, il faut les utiliser, il ne faut pas avoir peur. Faut les utiliser, puis il faut ne pas... On m'a dit très jeune, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du mot « aider ». On a tendance à se dire « Ah, quand on dit aider, ça ne fait pas gagner de l'argent, ça ne fait pas ça. » Alors que n'importe qui, quand on va, on lui demande « Écoute, j'ai envie de faire ça, j'ai besoin d'aide dans ça. » C'est très, très rare que les personnes vont dire « Non, je ne vais pas t'aider. »
Voilà. Bon, alors il y a un mot de la fin ici qui vous appartient.
Un tout petit mot, donc pour juste compléter ce que vous avez dit, c'est justement, on me dit toujours, mais comment tu trouves le temps? Et on doit vous le dire à tous les quatre, certainement. Et je voulais juste dire que quand on s'implique de manière bénévole, on peut donner 2 heures par semaine, on peut donner 2 heures par mois, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'on donne, et justement dans des actions qui nous ressemblent. Et moi, je trouve ça vraiment important de pas juste... si on n'aime pas les chats, on va pas à la SPCA. Ça sert absolument à rien. Je veux dire, si on n'aime pas les animaux, on va pas là. Ouais. Mais vraiment, aller dans un endroit qui... où aussi ça nous apporte quelque chose, parce que c'est quand ça nous apporte qu'on apporte encore plus et qu'on est encore plus stimulé d'aller faire du bénévolat.
C'est stimulant de vous écouter tous. Je vais poser une question. Comme un avocat, je pose toujours les questions auxquelles j'ai déjà les réponses, monsieur le juge. Quelle heure est-il?
15h16.
Oh là là, j'ai dépassé d'une minute, c'est incroyable.
C'est à cause de moi, désolé.
Non. J'ai trop parlé moi-même. Mais non, pas vous. Écoutez, merci beaucoup. Alors, on va vous applaudir à tour de rôle, encore une fois. J'y tiens, d'accord, parce qu'il n'y a personne pour vous applaudir. Dans la vie, il n'y a personne pour nous applaudir, n'est-ce pas?
Il y a nous-mêmes.
Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont vous applaudir. Oui, c'est ça. Alors, vous avez certainement établi des contacts entre vous aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un parmi vous que vous allez embaucher un jour, parce que vous l'avez rencontré ici, il faudra nous écrire quand même un petit peu, pour nous dire. Alors, merci beaucoup à Selma Tanouche Benani, qui était avec nous. Levez la main, Selma, pour... Ouais, voilà. Et puis à Reda Agouram, également. Et puis, merci beaucoup à Hussein Makdour. Merci beaucoup.
Merci.
Sophie,
merci.
Fantastique. Merci. Dommage pour les élections.
Merci, c'est pas fini.
C'est pas fini. C'est ça. C'est pas un verdict final.
Non.
On attend encore, c'est ça. Et puis, Reda, j'oubliais.
Non.
Non?
Amira,
pardonnez-moi. Amira, fantastique. Merci beaucoup d'être venue également. C'est quel le nom de votre livre et est-ce qu'on peut l'obtenir en...
Oui, alors ouais. Le livre s'appelle « Le voyage merveilleux de la Charika ». Charika veut dire « entreprise » en arabe. Et en fait, c'est un livre qui est édité en Algérie aujourd'hui. Il n'est pas encore disponible ici, mais c'est une fable où on a décidé de donner le mot à l'entreprise, donc à la Charika algérienne, pour parler de sa situation aujourd'hui dans notre pays. Et puis c'est une fable parce qu'on fait appel aux différents acteurs socio-économiques. On fait parler l'olivier, on fait parler les jeunes, on fait parler le quartier, on fait parler donc différents acteurs comme ça. On fait parler l'âne aussi de leur point de vue sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat. Et puis globalement, l'idée, c'est de parler de la situation de construction du pays. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller de l'avant et puis apporter une pierre à l'édifice, mais un peu différemment, sous forme de
fable. Et c'est rédigé du Canada.
C'est rédigé du Canada avec le professeur Taïb Hafsi.
Okay.
Et avec aussi Leïla Rahmouni qui, elle, est basée en France. Donc c'est aussi, on est un groupe, je suis un petit peu la jeune des trois. Puis c'est un travail de 3 ans qui vient d'un travail sur le modèle économique et entrepreneurial d'entreprise en Algérie.
Okay.
Puis voilà, on a fait ça, on travaille tous là-bas, on fait tous plein de choses là-bas. Puis on a
Amira,
écrit ce livre.
On va vous réserver la plus chaude main d'applaudissements de tout le groupe. Félicitations. Voilà, c'est tout. Je regarde les 3 caméras à la fois. Je n'ai que 2 yeux, vous savez, c'est compliqué. Je vais regarder celle-ci, je la préfère. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette émission spéciale de Tam Tam Canada, en direct du Palais des Congrès de Montréal. Mais je dois préciser qu'on a notre équipe de la section Aram qui s'en vient faire une émission également en direct dans quelques instants à E30, exactement E30. Alors, peu importe dans quel pays vous vous trouvez, en principe, dans quelques minutes, il sera E30. Sauf, bien sûr, quelque part, en plusieurs endroits d'ailleurs, mais quelque part dans les Maritimes au Canada. C'est différent. En tout cas, je ne vous fais pas de cours de géographie aujourd'hui. On fait beaucoup de politique, c'était suffisant. Alors l'équipe s'en vient, Fadi Harouni, Mais Abou Sab et Samir Benjafer. Au sujet de Samir, il revient de mission personnelle. C'est un journaliste, il était en Algérie, son pays natal, et il nous a accordé une entrevue. C'est un de nos journalistes, donc ça ne coûte rien. Et c'est sur le site de Tam Tam Canada, de cette émission que vous regardez en ce moment. Premier item pour poursuivre la discussion avec nous et la réflexion sur l'engagement canado-maghrébin, c'est là, vous regardez. Et puis, à la semaine prochaine. Merci pour la main d'applaudissement.